Bonjour à chacun. Merci pour votre accueil. Merci aussi à Jonathan d'avoir m'avoir permis de faire la connaissance de Laura et Louis, que je ne connaissais pas du tout. Ces deux enfants de votre église, c'est super. Il y en a d'autres, je apprendrai peut-être à les connaître. Il m'a demandé de me présenter en quelques mots. Il y a 35 à 40 ans, je donnais mon témoignage ici dans cette salle. Je donnais mon témoignage en disant, un jour, Jésus m'a rencontré. Un jour, il m'a révélé qu'il était trois fois saint et que j'étais perdu sans lui. Et depuis ce jour-là, alors si 35, 40 ans après, je peux venir ici, c'est pas parce que j'ai été fidèle, c'est parce que Dieu a été fidèle. Et ce qui m'a touché ce matin, c'est de me dire, pour vos enfants, Dieu sera aussi fidèle. Pour toi, il est aussi fidèle. Et c'est ça l'essentiel, c'est ça le cœur de l'Évangile. Dieu a été fidèle depuis la création. Depuis la création, il a dit d'ailleurs en Genèse 3,15 hein, qu'il a fait cette promesse qu'un jour, il y aurait cette délivrance. Il a fait cette promesse. Et dans la Genèse, il a d'ailleurs fait le premier pas. Où es-tu? Où êtes-vous? Il a été à la rencontre de l'homme pécheur. Il est venu à ma rencontre. Et il a payé à la croix. Et ce matin, j'aimerais ouvrir cette parole, effectivement, dans Matthieu 27. Matthieu 27, les versets 33 à 56. C'est le cœur même de l'Évangile, effectivement. C'est Dieu, par Jésus-Christ, qui accomplit notre salut. Et c'est vrai qu'avant ce verset 33, il nous est parlé de ce que Jésus a été injurié, a été battu, ils ont pris ses vêtements, ils sont moqués de lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs », etc. Et à partir du verset 33, eh bien, c'est au moment où Jésus va monter et arriver au mont Golgotha. Je lis les versets 33 à 56. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Eli. » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Eli viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. L'incrédulité, la moquerie, la souffrance, c'est ce que Jésus rencontre là, à la croix. Certains manifestent par des gestes, ils secouent la tête, c'est les passants. Et toi qui démolis le temple et qui le reconstruis, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Les chefs des prêtres, les sacrificateurs, les spécialistes de la loi lui disent, il a sauvé les autres, il est incapable de se sauver lui-même. Qu'il descende de la croix s'il est fils de Dieu. On a jeté vraiment le discrédit sur la nature divine de Jésus. Si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Qu'il descende de la croix. Et pourtant, il avait prouvé qu'il était le fils de Dieu. Les prophéties, celles d'Ésaïe notamment, ont été accomplies. Ésaïe 42, « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit et il établira la justice pour les nations. » Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne brisera pas le roseau qui se ploie, mais au contraire, il est là pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers, de la maison d'arrêt ceux qui habitent dans les ténèbres. Et c'est ce qu'a accompli Jésus. Il le dit dans Ésaïe 61, 11, c'est lui qui le reprend dans les évangiles. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour guérir, pour proclamer, pour délivrer. » C'est exactement ce que Jésus a accompli. Il a accompli les prophéties. Et puis, il a pardonné les péchés. Vous vous souvenez de cet homme paralytique. Et puis, Jésus veut le guérir. Mais avant, il lui dit qu'il pardonne les péchés. Et là, il y a des personnes qui lui disent, mais Dieu seul peut pardonner les péchés. Pour qui tu te prends, finalement? Pas normal, c'est pas logique. Et lui de répondre, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche. Vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il dit au paralytique que je leur donne, lève-toi, prends ton lit, et rentre chez toi. Et le paralysé se leva. Il affirme qu'il est Dieu. Il peut pardonner les péchés. Il est fils de Dieu. Il a guéri, il a ressuscité. On se souvient de la résurrection de Lazare. Là aussi, ça faisait plusieurs jours que Lazare était dans le sépulcre. Et puis là, Jésus arrive. Et il crie d'une voix forte, « Lazare, sors !» Eh bien, le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes, et le visage enveloppé dans linge, et Jésus a dit, « Détachez-le et laissez-le aller. » Jésus est maître de la vie. Il guérit, il est maître de la vie. Il est Dieu. Il contrôle aussi la nature. Vous vous souvenez de la tempête apaisée, hein? Tous les disciples dormaient comme ça. Pardon. Jésus dormait. Ah, vous êtes attentif. Ça, c'est le côté au Seigneur, c'est toujours facile. Non, là, je me suis trompé, vraiment. Jésus dormait et les disciples étaient là, dans la crainte, dans la barque. La tempête était là. À un certain moment, il le réveille et il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Je suis là. Pourquoi vous avez peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et puis, il menace le vent, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et la mer eut un grand calme. Et qu'est-ce qui se passe pour les disciples ? Ils furent saisis d'une grande frayeur, parce qu'ils se rendent compte que Jésus est Fils de Dieu. Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Mais quel est le pouvoir qu'il a ? C'est incroyable. Jésus est Fils de Dieu. » Et puis dans le texte qu'on a lu, il y a une deuxième attaque qui est aussi virulente. Pourtant, Dieu lui-même y avait répondu. Cette attaque, c'est la mise en doute de l'amour de Dieu. Il a mis sa confiance en Dieu. Si Dieu l'aime, qu'il le délivre. La mise en doute de l'amour de Dieu. Si Dieu l'aime, il ne doit pas rester sur la croix. Donc Dieu ne l'aime pas. Et pourtant, Dieu avait été clair. Déjà à son baptême, il avait dit la chose suivante. Il y avait une voix qui s'était fait entendre. Une voix se fit entendre dans les cieux et dit ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il ne l'a dit qu'une fois. Non, Dieu l'a dit même. Deux fois. Aussi sur la montagne, lors de la transfiguration, comme ils étaient là sur la montagne, tout à coup une voix se fit entendre de la nuée, ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Dieu a affirmé son affection pour son Fils. Et puis Jésus lui-même a affirmé que Dieu l'aimait. Dans Jean 17, il dit « Que tous soient un, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc Jésus sait exactement que le Père l'aime. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » De toute éternité, Jésus est aimé. Nous sommes aussi aimés de Dieu. Les souffrances du Christ ont été immenses. On le voit si on lit encore les prières avant la croix. Il a prié, il a supplié, mais il est venu pour faire la volonté du Père. On voit aussi les souffrances, et peut-être qu'on les a peut-être une fois ou l'autre connues, l'abandon total de ses disciples dans des moments cruciaux, leur incompréhension, parfois leur incrédulité, leur imperméabilité au message de l'Évangile. Et puis à travers les paroles qu'il exprime à la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On sent la souffrance, on voit la souffrance. Et dans mes épreuves, alors c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, les épreuves. On en a tous, on en a tous. Et quand on passe dans l'épreuve, ben ce n'est jamais évident. Mais est-ce qu'on doute de la puissance de Dieu ? Parce que finalement, ça revient à ça. Est-ce que je doute de la puissance de Dieu ? Dieu affirme dans sa parole, dans Romains 8, qu'il est là, Dans l'épreuve, il est là. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui s'élèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui peut nous arracher de l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. C'est très, très vrai dans certaines parties du globe. Ça l'est moins pour nous. Même si la moquerie est là, même si quelqu'un a dit les chrétiens sont à quelque part tatoués et le monde les regarde. C'est vrai. Mais rien ne doit nous faire douter de la puissance et de la toute suffisance de Dieu. Et est-ce que dans les moments difficiles de nos vies, est-ce qu'on doute de l'amour de Dieu? Lorsqu'on perd un être cher ou lorsque les circonstances sont particulièrement douloureuses, ben là aussi, la parole affirme. Mais de tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Le don de Dieu, ce don de Jésus-Christ, et on l'a lu, c'est le ciel qui s'ouvre. Il y a des manifestations spectaculaires. On l'a lu dans le texte, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. C'est Dieu qui est intervenu. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Et ils apparurent à un grand nombre de personnes. Dieu est intervenu, et ça a été significatif et signifiant. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que cet événement-là, Dieu l'a montré comme il était particulier. Il n'est pas passé inaperçu. Mais avant de dire que ce voile s'est déchiré, ce voile qui séparait le temple en deux parties, entre le lieu saint et le lieu très saint, où l'homme ne pouvait pas venir comme ça, à la rencontre de Dieu, eh bien, par Jésus-Christ, ce voile s'est déchiré du haut en bas. Donc le ciel s'est ouvert. Mais avant de se dire que le ciel s'est ouvert, qu'est-ce qui ferme le ciel? Je me suis posé la question. Et là, c'est la parole qui répond. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59. Ou encore, de Colossiens 2, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. » Vous étiez morts par vos offenses, mais il nous rend à la vie par Jésus-Christ. L'incrédulité ferme le ciel. Et il y a un passage qui est frappant dans l'Ancien Testament, c'est dans 2 Rois 7, ça vaudra la peine que vous lisiez, relisiez cette histoire. C'est lorsqu'il y avait des Syriens qui étaient là et qui assiégeaient en fait Israël. Et ils étaient nombreux, nombreux. Et eux, ils avaient de la nourriture en abondance. Et puis à un certain moment, Élisée qui arrive, et puis qui donne une réponse, une promesse de Dieu à l'officier qui était proche du roi, sur lequel s'appuyait le roi. Et cet officier, il ne croit pas. Parce que Élisée lui dit, demain, les Syriens seront vaincus et tout le monde en Israël pourra manger à sa faim, même plus que largement. Hein. On achètera pour rien du tout de la farine. Et puis, il ne croit pas, il dit d'ailleurs, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et la condamnation tombe. Tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. L'incrédulité nous condamne. Mais les fenêtres des cieux sont ouvertes. L'incrédulité aussi, la méfiance, blesse toujours un cœur qui aime. Et ça, je l'ai lu aussi dans la période là où Joseph est en Égypte, hein, il est auprès de Pharaon. Les frères sont là, ils sont venus, le père est venu, et puis le père meurt. Puis les frères se disent, aïe, 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 on l'avait envoyé en Égypte, là, hein, on l'avait vendu, etc. Il va se venger. Ils n'ont pas compris quel était le cœur de Joseph. Ils n'ont pas du tout compris que Joseph les aimait. Et ils vont vers Joseph et ils disent, oui, alors, notre père nous a dit qu'il fallait qu'on te dise que quand il serait loin, quand il serait décédé, eh bien, il faut que tu sois bienveillant, etc., avec nous. Il faut que tu uses d'amour et de fidélité avec nous. Et qu'est-ce qu'a fait Joseph? Il a pleuré. Il a pleuré. Mon manque d'amour pour Dieu blesse Dieu lui-même. Mais venons maintenant à qu'est-ce qui ouvre le ciel? Hein, on voit ce temple, ce voile du temple qui s'est déchiré en deux. Donc effectivement, c'est Dieu qui ouvre lui-même le ciel. Et prophétiquement, Jacob avait eu cette vision que le ciel était ouvert et que les anges montaient et descendaient. Et Jésus a rappelé cette vision dans les évangiles quand il a rencontré un des disciples qu'il appelle. Il dit, le Fils de l'homme verra les anges monter et descendre. Et puis à la mort d'Étienne, voilà ce que dit Étienne. Voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui a ouvert ce ciel, qui l'a prophétisé et qui en fait l'a accompli. Il dit dans sa parole, il n'y a de salut en aucun autre, et il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Mais il faut que l'homme s'approche de Dieu avec foi. Il est nécessaire qu'on s'approche de Dieu avec foi. Il y a un texte que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui nous explique bien ce qui se passe. Hein. Une grâce n'a de valeur que si elle est acceptée par la personne à laquelle elle est destinée. En 1829, vous voyez que c'est vieux, hein, un certain George Wilson de Philadelphie aux États-Unis a été jugé pour meurtre, il a été reconnu coupable, il a été condamné à mort, et des amis sont intervenus auprès du président de l'époque, qui était Jackson, et puis le président lui a accordé sa grâce, mais Jackson l'a refusé. Et le magistrat qui devait faire appliquer la sentence s'est dit, mais il y a la grâce présidentielle, je ne peux pas l'appliquer. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il la refuse, mais en même temps, j'ai ce papier. Et il s'est dit, je vais retourner vers le président, puis lui poser la question. Et le président, lui, a interpellé la Cour suprême, et le président de la Cour suprême a répondu, « Une grâce n'a de valeur que si la personne concernée l'accepte. On peut difficilement supposer qu'une personne sous sentence de mort puisse refuser cette grâce. » Mais si elle le fait, il n'y a plus de grâce. Et George Wilson doit subir sa peine. Ainsi, le condamné fut exécuté alors qu'il y avait le papier qui le graciait sur la table du magistrat. Nous devons nous approprier la grâce de Dieu. Et les conséquences de cette grâce, eh bien c'est l'amour de Dieu qui va nous étreindre et qui va nous transformer. nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous sommes, comme le dit l'apôtre Paul dans le Corinthiens, nous sommes une nouvelle créature. Nos noms sont inscrits. Réjouissez-vous, et c'est Jésus qui l'a dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ce matin, au petit déjeuner, je dis, cet après-midi, ce serait bien, comme il y a une rencontre de prière, qu'il y a des moments de prière, que j'ai eu une cloche. J'ai dit ça à ma femme, puis j'ai dit, c'est super, j'ai reçu une cloche à mon mariage. Et je pense qu'elle a pensé comme vous, parce que j'ai tout de suite vu sa réaction. Alors, j'aurais dû dire, nous avons reçu une cloche à notre mariage, parce que mes parents avaient une ferme, et mon souvenir de ça, j'avais reçu une cloche. Mais dans la manière dont on dit les choses et on les vit, ça fait toute la différence. Et Jésus nous a appris notre Père. Pas simplement mon Père. Notre Père, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons une relation avec le Père, effectivement. Mais en plus, nous sommes frères du Christ. Mais en plus, nous sommes solidaires, nous qui croyons, les uns des autres. L'égoïsme est terminé, ou devrait l'être. Il est notre Père. Nous sommes appelés à la solidarité entre nous. C'est ce qu'il a accompli à la croix, c'est de faire du Père notre Père, et pas simplement mon Père. Est-ce que je m'exprime correctement ? Est-ce que je vis correctement cette relation du nôtre ? Et c'est en aimant les autres que nous prouvons le mieux notre amour pour Dieu et pour le salut qu'il nous a octroyé. Et c'est ainsi aussi que tous verront que nous sommes enfants de Dieu. La confiance en Dieu aussi renouvelée, Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. La joie d'être enfant de Dieu, réjouissez-vous tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie, faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et nous avons aussi la possibilité de célébrer sa gloire. Nous avons été destinés à vivre pour célébrer sa gloire, nous qui sommes les premiers êtres de la création, à placer notre espérance en Jésus-Christ. Éphésiens 1. Et puis nous sommes appelés aussi d'entrer dans un ministère de réconciliation, d'ambassadeur, d'intercesseur. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Oui Seigneur, ce matin nous voulons vraiment te louer parce que nous pouvons t'appeler notre Père. Et nous pouvons venir en Église à tes pieds. Seigneur, nous te louons parce que tu as tout accompli à la croix. Et Seigneur, tu nous montres par tes paroles que tu nous aimes, que tu es le Fils de Dieu qui est venu jusqu'à nous. Et tu nous invites dans nos moments de difficulté à te faire entièrement confiance. À savoir que notre consolation est en toi. À savoir que même si la difficulté est là, Seigneur, tu es proche et tu nous aimes. Seigneur, il y a des pourquoi dans nos vies. Mais Seigneur, nous pouvons les déposer à tes pieds en toute confiance. Sachant que c'est toi qui seras fidèle. Et c'est toi qui accompliras toutes choses belles pour nous. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons eu ensemble, Seigneur. Merci pour ces enfants. Et Seigneur, merci parce que, comme parents, nous pouvons aussi te faire confiance pour la génération qui vient, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos proches. Et Seigneur, nous voulons vraiment te louer pour cela. Fais de nous, Seigneur, des ambassadeurs, des porteurs de réconciliation. Et Seigneur, que ta gloire se manifeste dans ma vie, dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen.
Je crois qu'on ne peut pas rester insensible devant la croix. La croix exige, elle nécessite une réponse de notre part. On peut laisser, comme ce condamné à mort, laisser le papier sur la table, on peut décider de l'accepter. Mais en quelque sorte, l'une ou l'autre de ces actions est une réaction face à la grâce. On ne peut pas juste dire que ça nous est égal. La grâce, elle est là. On doit s'en saisir ou la refuser. Alors je vous propose qu'on prenne maintenant quelques instants pour réfléchir à cette grâce, chacun pour nous-mêmes. Ce que je vais faire, c'est que je vais relire quelques versets qui nous ont été lus tout à l'heure. Ensuite, on va faire quelques minutes de silence où chacun pourra repenser à cela pour lui-même. Et puis ensuite, après quelques minutes, 2-3 minutes de silence, le groupe Louange, vous pourrez spontanément venir là-devant et on va entonner un chant qui poursuit un petit peu cette réflexion. Et ce que je vous propose, c'est que ce chant, vous le chantiez de tout votre cœur, si vous croyez aux paroles qui sont dans ce chant, mais que vous vous absteniez de chanter si vous ne croyez pas les paroles qui sont dans ce chant. Ce chant, c'est un chant qui, en quelque sorte, nous engage. Et du coup, il faut être cohérent et il faut le chanter si on croit à ces paroles. Je vous lis, pas tout le chant, mais juste quelques mots de ce chant. Ce chant est dit... L'amour du Père est infini, plus précieux que beaucoup d'or. Il a donné son Fils unique et fait de nous son trésor. Je n'en comprends pas la raison, mais je prends part à son butin. Pourtant, mon cœur en est certain, il a payé la rançon. Ce qu'on va faire, c'est que quand le chant va commencer, vous pourrez rester assis et puis... Si vous le souhaitez, pendant le chant, soit au début du chant, soit à la moitié du chant, soit à la fin du chant, vous pourrez vous lever quand vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va prendre maintenant quelques secondes de silence pour repenser à ce que nous avons entendu. Je lis simplement quelques versets. De midi jusqu'à la troisième heure de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu dire, « Il appelle Élie ». Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa au roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis de leur tombe, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ».